Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 20e pour la 4e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Henri Martin, notre invité du jour.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Maire de Port-la-Nouvelle, vice-président du Grand Narbonne, de la communauté d'agglomération. Puis également aussi, ne l'oublions pas, vous êtes conseiller départemental avec une particularité, c'est que vous êtes le seul, je crois, de l'opposition.
Nous sommes deux.
Oui, enfin, le duo, exactement, puisqu'aujourd'hui, on fonctionne en duo. C'est la loi, ça fonctionne comme ça.
Quand même, Jean-Claude, enfin, hier, c'était journée de la femme.
Oui, ben...
Oubliez, faites la conseillère départementale.
Enfin, de la femme, pas du duo. Pas du duo.
Du duo, c'est vrai. Il faudra qu'il y ait une journée du duo.
Alors, nous avons un sommaire, bien entendu. Michel, tu vas nous parler de la déferlante sur le média de Jean-Luc.
Oui, qui m'a fait réfléchir un petit peu à la manière dont fonctionnaient les médias, que j'ai déjà chroniqué ici.
Ouais. C'est assez amusant. Enfin, caustique, mais amusant. Ensuite, concurrence chez les associations écolo-narbonnaises.
Oui.
Il semblerait qu'il y ait une concurrence qui s'installe et qui s'exacerbe d'une certaine façon.
Oui, très vive.
Et puis en deuxième partie, alors Codor, quels sont ses soutiens politiques? Il semblerait qu'il change d'un territoire à l'autre et ça a valu un billet là-dessus. Tu nous expliqueras plus en détail ce que tu entends par là. Mais tout d'abord, le média de Jean-Luc. Alors c'est quoi? Expliquons.
Oui, Jean-Claude, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je pose la question parce que c'est vrai que la mémoire médiatique aujourd'hui est très très courte. Elle est de l'ordre de l'instant, de la minute en fait, ou de la seconde même. Mais toute la semaine dernière, on a assisté à un véritable acharnement médiatique, alors généralisé, contre le Média TV, c'est son nom.
C'est-à-dire la web télé
de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Insoumise.
Il faut dire que lui, quand même, il y va pas mollo non plus. Il tire au bazooka sur l'ensemble.
Non, mais quand même, Jean-Claude. Comment pouvait-on s'attendre à ce que les responsables de cette chaîne, donc la chaîne de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise,
fussent neutres et impartiaux,
traitent l'information de la même manière que les autres organes de presse du monde audiovisuel?
Oui, bon, c'est...
Je pense notamment...
C'est l'organe d'un parti.
Je pense notamment aux grands organes de la, gérés par les pouvoirs publics, Antenne 2, etc., voire même des groupes privés. Qui sont financés par des intérêts financiers et industriels. Et puis quand même, va-t-on demander à l'humanité de traiter l'information là aussi de la même manière que le Monde, l'Observateur et le Figaro réunis? Donc c'est absurde évidemment quoi. Bon alors. Tout cet intouin pour cette banale constatation, quand même, il faut bien le dire, à quelque chose d'absurde, je me répète, et surtout d'incompréhensible, sauf si on voit les choses d'une autre manière, comme je vais tenter de le faire à l'instant. À savoir que, après tout, on pourrait se dire, mais voyons voir, qu'est-ce qui se cache derrière ce que j'ai appelé dans mon billet, en fait, cet enfumage orchestré par de bons médias? Sinon, effectivement, pour ces bons médias en question, faire la démonstration que eux sont totalement indépendants et ont un bon traitement parfaitement neutre et objectif de l'information. Ce qui, entre nous soit dit quand même, Jean-Claude, ne va pas forcément de soi, en fait.
Sur le plan financier. Mais est-ce qu'un intérêt financier et est-ce qu'un intérêt politique sont identiques dans le domaine médiatique?
Je me répète, ça ne va pas de soi. Et pour tout dire, en tout cas pour ce qui me concerne, je m'abstrains en fait à un exercice critique pratiquement tous les jours pour essayer de voir un petit peu dans cette abondante production de tout ce monde médiatique ce qui relève de l'enfumage, de la présentation d'un fait objectif et d'une interprétation à peu près rationnellement organisée.
Ne s'agissait-il pas tout simplement d'enfoncer le média de Jean-Luc pour se mettre en valeur? C'est exactement ça.
Alors le plus grotesque quand même dans cette affaire-là, ça a été l'instrumentalisation consentie d'ailleurs de Noël Mamère, qui avait été recruté par le web en question, télé de Jean-Luc Mélenchon, et qui après, je vais y revenir, la façon dont ce web avait couvert les événements en Syrie a décidé, mais hors du manière très très bruyante en fait et très orchestrée et très médiatisée de démissionner tout simplement de ce web télé en disant pique-pense dépendre de la façon dont, effectivement, cette télévision mélenchonienne couvrait l'information.
Oui, mais alors, ma mère, qu'allait-il faire dans cette galère?
Oui,
aussi,
bon, et puis, je te dis, franchement, Jean-Claude, cet homme est tellement peu sérieux, pour ne pas dire ridicule, que la manière dont il se comporte en ce moment sur ce sujet-là le rend encore plus ridicule. Il a tendance même à considérer le web télé de M. Mélenchon avec un regard un peu plus, comment dirais-je, attentionné. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et je suis allé voir, en fait, sur ce site, ce qui, effectivement, motivait cette levée de bouclier, à savoir la manière dont Jean-Luc Mélenchon et son organe de presse a couvert, il couvre encore les événements en Syrie, notamment dans la fameuse enceinte de Goula, en fait, non comme ça, et au motif que ce web télé et ce journaliste correspondant de ce web télé qui est installé, en fait, au Liban, avait refusé de présenter toutes les images qui, elles, ont été abondamment diffusées par tous les médias, présentant, bon, comme d'habitude, des colonnes de fumée, des immeubles détruits, des enfants pris dans les
bras, massacre,
etc.
Du massacre. Du beau massacre, comme on aime bien en montrer, d'ailleurs.
Exactement. Et ce journaliste expliquant pour quelles raisons il ne présentait pas des images, à savoir que, un, il n'y avait aucun correspondant des grands médias sur place pour couvrir ces événements, premier point. Que deuxième point, l'Observatoire des droits de l'homme syrien, enfin, qui est présenté comme, avec en face d'ailleurs, comme étant un organisme particulièrement indépendant, c'était une personne basée à Londres, et que trois, bon, ben, ces images, on ne savait pas qui les avait produites, quand, comment, etc. Donc une présentation, et ce journaliste en question, mettait en balance les horreurs des deux camps qui étaient tout aussi manifestes et tout à fait insupportables, tout à fait contestables. Donc, de mon point de vue, absolument rien d'absolument incroyablement contestable d'un point de vue déontologique, simplement une prise de position médiatique correspondant à un point de vue politique sur la manière dont on couvre un événement et expliquant pour quelles raisons objectives le dit web télé et le dit journaliste n'avaient pas souhaité ce jour-là diffuser comme les autres grands médias les mêmes images, avec les mêmes références, sans aucune autre précision.
Et venant de la part du média de Jean-Luc Mélenchon, donc de la France insoumise, une prise de position n'était pas particulièrement surprenante.
Alors, Jean-Claude, on commence à me connaître. On sait bien que je ne suis pas de ceux qui, tous les jours, passent leur temps à défendre les positions politiques de Jean-Luc Mélenchon, loin de là. Mais enfin, en l'espèce, quand même, il me semblait important.
Une belle dose d'hypocrisie. Il semblerait, alors, peut-être, je me suis laissé dire, ou j'ai lu quelque part, qui se serait aussi attrapé sur le Venezuela.
Ça, je n'en sais rien, très honnêtement. Je n'en sais rien, mais en tout
cas,
sur ce coup-là...
Parce que Mélenchon était quand même un chaud admirateur du régime vénézuélien.
Que je ne manquerai pas de relever le moment venu. Mais sur ce fait précis,
en fait, cette
couverture précise, en fait, la couverture des événements qui aujourd'hui, ces massacres qui aujourd'hui ont lieu, en fait, en Syrie, je ne pouvais pas laisser apparaître, être indifférent. Et surtout, c'était l'occasion de contester et de critiquer ce comportement moutonnier, pour ne pas dire plus, de l'ensemble de nos médias. Oui.
Alors, un petit point sur la concurrence chez les associations écologistes narbonnaises. Il te semble qu'elles entrent de plus en plus sur le champ de la concurrence. Exemple précis.
Oui, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il fut un temps où il n'y avait qu'une association et qu'une personnalité qui couvrait le marché, si je puis dire, de la défense environnementale.
C'est vrai qu'il y avait à la fois une association et une personnalité qui avait un certain poids.
Éclat, et Mme Arditi, qui en plus, de par son métier, sa formation scientifique, etc., avait quelques références.
Petite parenthèse qui viendra à ce micro dans les semaines prochaines.
Qui avait quelques références, je dirais, à la fois intellectuelles, en fait, et scientifique, en tout cas, à exprimer un point de vue sur cette question-là.
Et alors ?
Et maintenant, elle n'est plus la seule. En fait, on voit apparaître l'association du nom de Rue Brésus, animée par un ingénieur de l'INRA à la retraite qui habite du côté d'Armissant.
C'est bien, ça fait roman,
qui a été à la pointe du combat contre le procédé de dépollution de Malvésie, qui est intervenu aussi sur le territoire de Montredon en distribuant dans les boîtes aux lettres des tracts informant la population que si elle buvait de l'eau des robinets, elle risquait d'être empoisonnée et d'avoir un cancer.
Au moins deux à occuper le terrain. Et alors,
puis une troisième, l'association des petits canaux, qui ne cesse de dire, mais les petits canaux qui passent devant nos maisons, ils sont pollués, ils sont radioactifs, donc c'est scandaleux. Donnez-moi des sous à travers une procédure très particulière sur les réseaux sociaux, pour que je puisse attaquer la décision du préfet pour qui a autorisé la création de ce fameux procédé tort. Bon, j'arrête là pour les principales.
Quoi. Bah, donc, c'est ceux qui occupent le terrain aujourd'hui.
Oui, mais parce que sitôt qu'une intervention, qu'une promotion d'une intervention va se faire de la part d'une association, pouf, il y a derrière l'autre qui intervient.
Mais si ce sont des interprétations différentes, ça peut enrichir le débat.
Bien sûr, bien sûr. Et ce qui me pose un problème, je l'ai déjà dit, mais je reviens là-dessus, c'est que souvent, en fait, ces associations n'interviennent, bon, après tout, c'est ce qu'elles ont choisi, mais ça mérite quand même...
C'est leur créneau, disons-le.
Ça mérite quand même qu'on y réfléchisse deux secondes. C'est qu'elles interviennent sur des aspects très symboliques liés à l'environnement, notamment à la pollution, en fait, des choses comme ça, quoi, etc. Alors que, Jean-Claude, je prétends, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, que si notre région souffre d'un problème qui est victime de pratiques notamment institutionnelles et donc économiques derrière, qui posent de sérieux problèmes de manière environnementale, c'est ce que j'ai appelé dans mon blog, l'état urbain qui aujourd'hui ne cesse de croître autour de nos villes et de nos villages, avec comme conséquence un enlaidissement absolument... incroyable, de ces villes, et de ces cœurs de ville et de ces cœurs de village, avec une tendance quasi naturelle, à la jonction de ces proliférations cancéreuses de zones pavillonnaires,
voilà,
etc.
Tu en as largement fait état à propos des dindons, de la farce de Marc-Aurignan.
Exactement, mais un exemple, il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir ma mère qui habite à Parazan, donc j'ai fait un petit crochet sur la route entre Moussan et Marc-Aurignan et Moussan, et là, ma grande stupéfaction, j'ai vu une horreur urbaine en train de proliférer, à savoir la jonction de zones pavillonnaires originaire de Moussan et de Marc-Aurignan qui convergeaient. Donc, et comme avec les projets, si tant est qu'ils se fassent un jour d'aires de grand passage et de prisons qui créeront effectivement de l'activité on va se retrouver, on risque de se retrouver avec un étalement urbain de Narbonne jusqu'au Somail.
Donc avant de marquer une pause, tu lances un appel à ces associations écologiques pour qu'elles
soient... Intéressez-vous, messieurs et mesdames, à l'aménagement du territoire et aux politiques sont menées en la matière pour éviter effectivement que cet allemand urbain fasse de notre Narbonnaise une immense nappe bétonnée le long de notre littoral.
Voilà, un bon sujet suggéré par Michel Santo avant que nous marquions une première pause.